identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Retrouvez toute l'équipe tous les samedis à 8h30, le mardi à 14h15.
Voilà, c'est lancé dans une affaire Paris de nos jours comme un passage obligé. Que l'on soit un salarié ou pas, les business permettent de fructifier des moyens pour être à l'abri des problèmes financiers d'ordre personnel, familial et social. Pourquoi est-il important d'entreprendre et surtout que faire pour se créer des opportunités d'affaires? Nous en parlons, je le dis en sommaire de ce magazine avec nos deux invités, Madame Véronica Kayembe qui est consultante en business et interprétariat. Elle est accompagnée de Louis-Michel Mwando qui est entrepreneur, initiateur du salon de l'emploi RDC Job Days et directeur général de DKV Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, vous avez des questions, n'hésitez pas, composez les 099-706-63-94. Vous pouvez aussi réagir sur à l'adresse service@radiookapi.net. Voilà. Je me tourne d'abord vers Madame Véronica Kayembe. Alors, dites-nous, Madame, si c'est qu'on a comme l'impression, on parle de plus en plus de l'entrepreneuriat, finalement, on a comme l'impression que ça devient un passage obligé.
Oui, en quelque sorte. Si quelqu'un veut réussir dans la vie, à mon avis, comme on le dit aujourd'hui, « You want a job, create it yourself ». Tu veux un emploi, tu le crées. Parce que de plus en plus, nous voyons comment même les grandes entreprises mondiales ferment leurs portes. Récemment, en RDC, nous avons eu un géant, Nestlé, qui a fermé. Et donc, si vous ne vous appuyez que sur une entreprise pour recevoir un salaire, vous n'allez pas suffisamment vous développer dans la vie. Mais si vous avez votre propre emploi, vous êtes votre propre boss, vous décidez de votre salaire, vous décidez comment vous voulez croître et évoluer, et la flexibilité de votre temps. Donc, c'est le système idéal.
Mais déjà, au départ, il y a des gens qui ont bien envie de se lancer dans une affaire, mais ils sont hésitants. Ils se demandent, mais est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera pas? Ils pensent déjà peut-être à la concurrence. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ça?
La réalité de la concurrence est la même partout. Même quand vous allez chercher un emploi, surtout chez nous en RDC où le taux de chômage est très élevé, vous arrivez pour un seul poste, il y a 500, 600 personnes qui postulent. Donc la compétition, elle est là. Et une fois que vous êtes dedans, la compétition est toujours là avec vos collègues de travail, avec ceux qui cherchent toujours à rentrer dans la boîte, avec ceux qui cherchent à avoir la même promotion que vous recherchez. Donc ce défi-là, il est là, même quand vous êtes employé. La réalité, c'est qu'il faut aller au-delà de la peur, comme on dit chez nous, qui ne risque rien à rien.
Qui ne risque rien à rien. Je me tourne vers Louis-Michel Mwando, qui est lui entrepreneur. Il est aussi initiateur du salon de l'emploi RDC Job Days et directeur général du DKV Service. Qu'est-ce qui vous a pris, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat, il est important d'entreprendre. Et comment ça s'est passé pour vous, puisque vous êtes entrepreneur? Vous étiez aussi hésitant au départ?
Bien sûr, Marcel. En fait, l'entrepreneuriat, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il est important pour chacun de se tourner vers ceux qu'il aime, de pouvoir faire en fait valoriser en fait les différentes compétences, les différents dons et talents qu'il peut avoir, et de pouvoir s'orienter vers un chemin justement qui lui permet de pouvoir le transformer en opportunité. Et donc moi personnellement, par rapport à mon parcours, j'ai été salarié pendant plusieurs années. Et donc si je me suis tourné vers l'entrepreneuriat, c'est parce que j'ai compris à un moment donné que le monde séculier vous donne une certaine sécurité, ça c'est certain. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde à risque, mais c'est aussi le meilleur moyen pour pouvoir se développer soi-même, mais aussi pour pouvoir développer des richesses au niveau personnel. J'ai compris aussi que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen en fait de création de richesses aussi personnelles, raison pour laquelle je me suis lancé et tourné vers l'entrepreneuriat. Comme le disait ma collègue Véronica, le facteur risque est le même, pratiquement. Il est même plus important, je dirais, au niveau de l'entrepreneuriat, ça c'est certain. Mais il y a aussi des avantages que nous pouvons quand même épingler par rapport à l'entrepreneuriat. C'est comme je disais tout à l'heure, vous faites d'abord ce que vous aimez. Ça, c'est déjà une chose qui n'a pas de prix. Vous arrivez à bâtir quand même une certaine réputation en termes de de votre savoir-faire, de votre expertise. Et donc, vous êtes le patron de vous-même. Il y a une certaine liberté qui est là. Bien entendu, comme je l'ai dit, ça exige quand même une certaine discipline, ça exige certains sacrifices. Mais comme on dit, la liberté n'a pas de prix. Et c'est pour ça que personnellement, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est parmi les meilleures pistes pour pouvoir s'épanouir aussi soi-même. Et dans notre contexte, si je peux rajouter aussi pourquoi j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Au bout de plusieurs années de service au sein de plusieurs sociétés, j'ai compris que à la fin, il fallait quand même se lancer. Il fallait se jeter un peu dans le vide pour pouvoir explorer des nouvelles pistes. Donc l'entrepreneuriat, c'est aussi un moyen de sortir un peu de sa zone de confort, d'aller explorer en fait ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc ça, c'est aussi très important au niveau aussi du contexte local dans lequel vous avez vu, le marché de l'emploi est très contraignant. Comme le disait ma collègue, vous avez un taux de chômage qui est très important. Et donc, c'est aussi un bon moyen pour créer de l'emploi, engager d'autres personnes et devenir en fait aussi une sorte de d'employeur local et de pouvoir contribuer justement à la création d'emplois.
Mais dans le contexte de l'RDC, vous l'avez dit, où le taux de chômage est très criant, il y a des diplômés, il y a des gens qui ont des qualifications mais qui n'arrivent pas à attraper du travail. Et comment ils peuvent déjà s'y prendre pour se lancer dans une affaire, Charles?
Louis-Michel,
excuse-moi, Louis-Michel Mandoué. Comment il peut se lancer dans une affaire?
Mais écoutez, aujourd'hui, quand vous regardez notre pays, notre environnement, quand on regarde les différents investisseurs qui viennent, ils se disent, c'est un pays plein d'opportunités.
Oui.
C'est un pays où on peut faire plusieurs choses. Et nous encadrons pas mal de jeunes aujourd'hui dans le secteur de l'entrepreneuriat qui créent leurs propres entreprises. En fait, le point de départ, c'est d'abord d'identifier quels sont les besoins de la société. Aujourd'hui, il y a plusieurs besoins dans notre société et en fonction de votre savoir-faire, en fonction de ce que vous pouvez apporter comme expertise, vous pouvez répondre à ce besoin-là assez facilement. Donc, je pense que pour les jeunes qui veulent se lancer, la première étape, c'est d'abord de faire une sorte d'analyse en fait de l'environnement, de voir un peu quels sont les besoins et de faire aussi une auto-analyse, qu'est-ce qu'on a comme compétences, qu'est-ce qu'on a comme expertise qu'on peut apporter au niveau en fait local. Et ne voyons pas les choses nécessairement au niveau de l'échelle d'une très grande échelle, hein. L'entrepreneuriat, ça commence avec de la plus petite activité aux plus grandes activités. Aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui se sont lancés par exemple dans des salons de coiffure. Donc ce sont des choses qui sont utiles, qui paraissent basiques, mais qui fonctionnent. Un dernier exemple en date, quelqu'un qui a créé en fait un garage spécialisé en nettoyage de véhicules professionnels avec des machines, des engins, parce qu'il a identifié le besoin et s'est dit, tiens, pourquoi ne pas professionnaliser ce service-là? Pourquoi ne pas créer carrément un garage qui sera spécialisé dans le nettoyage de véhicules. Donc, ce sont des petites choses qu'il faut identifier au niveau du marché local. J'ai pris des exemples un peu terre à terre, mais c'est pour dire
mais
que
c'est important, oui.
Les
on
jeunes
on
ne
peut
doivent
commencer
pas...
à les gens, il ne faut voilà. pas tout le temps imaginer des grosses affaires.
Des grosses affaires, se voir dans un bureau climatisé tout de suite, ainsi de suite. Donc, les besoins sont énormes, ils sont multiples. Donc, je pense que en identifiant cela, les jeunes peuvent se lancer. Un exemple en date encore, une jeune fille qui s'est lancée en fait dans les jus de fruits locales, des jus frais à base de fruits naturels. Donc elle a identifié le besoin, elle a dit mais tiens, nous avons des fruits qui pourrissent ici, pourquoi ne pas les transformer, pourquoi ne pas créer un jus local que les gens peuvent consommer. Donc ce sont des petites idées qui marchent localement et donc c'est simplement d'identifier le besoin et de voir un peu quels sont les atouts qu'on a par rapport à ça et de se lancer.
Et Madame Véronica, vous êtes consultante en business, c'est exactement qu'est-ce que vous faites? Les gens viennent vous voir pour essayer de se dire, écoutez, Madame, je voulais me lancer dans tel domaine. Comment dois-je m'y prendre? Quand vous dites consultante en business, ça veut dire quoi?
C'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans un domaine particulier ou dans une affaire particulière, mais ne savent pas comment commencer. Ils ont une idée, ils ont un rêve, ils ont des atouts, des compétences, mais ils ne savent pas comment peut-être structurer leur entreprise, avec quoi il faut commencer, par où il faut commencer, quel contact il faut prendre. Et nous, au travers de ce que nous faisons avec mon collègue Louis-Michel et au travers de cette plateforme, nous réseautons avec plusieurs acteurs sur le marché local pour aider justement les PME à se lancer. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, s'est lancé dans les jus, se dit, mais comment est-ce que je vais commencer pour prendre même un rendez-vous chez un supermarché pour que mes jus y soient vendus. C'est là où moi j'interviens pour aider à mettre en place un business plan, pour aider à prendre les contacts et les conduire à ce but-là.
Et bien, bien souvent ça marche ou bien il y a des gens qui viennent, ils passent en consultance, mais après c'est du courage ou bien et souvent ça marche fort.
Les réalités de l'entrepreneuriat sont toujours là. Oui. Il y a des réussites et il y a des échecs. Tout entrepreneur échoue au moins 3 fois avant de vraiment réussir. C'est ça la réalité mondiale. Hein. Oui. C'est pas simplement en RDC. Mais souvent en RDC, on se décourage, on a l'impression que les avantages sont donnés peut-être aux étrangers ou quoi. Pendant que cette réalité, elle est mondiale. C'est comme ça que ça se passe. Celui qui nous a donné la lumière a échoué 1000 fois. Sir Isaac Newton. Mais après, il a continué. Donc, c'est une réalité. On ne peut pas dire qu'une fois que tu te lances, ça marche.
Il faut persévérer.
Il faut persévérer. Il faut de la résilience.
Voilà pourquoi est-il important d'entreprendre. Si vous venez de nous joindre en course, votre magazine Okapi Service et les sujets du jour. Nous avons pour invité Madame Véronica Kayembe qui est consultant business et entrepreneuriat, mais aussi lui, Michel Mwando, qui est entrepreneur et initiateur du Salon de l'Emploi RDC Job Days. Je rappelle le numéro des contacts si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à composer les 099-706-63-94.
Okapi. Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Nous avons déjà en ligne un auditeur qui nous appelle de Lubumbashi à Jules Kazadi. Bonjour.
Bonjour monsieur et bonjour à l'invité, à tous les invités qui sont là-bas.
Bonjour.
Voilà. Les thèmes en tout cas prépondérant. Tout Congolais a toutes ces idées là, mais les problèmes c'est notre gouvernement, parce que ici nous avons un monsieur qui était venu d'une province voisine, il voulait juste investir, mais quand il est venu, il a demandé toutes les modalités, donc il demandait la terre pour qu'il puisse faire une ferme, donc commencer à produire les œufs de poule, parce qu'au jour d'aujourd'hui, Lubumbashi dépend toujours de la Zambie. Alors, dans ce monsieur-là, notre gouvernement lui a demandé beaucoup de choses, on ne sait pas s'il voulait donner la lune ou les étoiles, je ne sais pas. Donc, les problèmes dit pour ça. Ça n'a pas même commencé au niveau de notre équipe nationale, même dans notre gouvernement. Alors, le monsieur était complètement désespéré. Bon, il a lâché, il est parti. Et il est parti où? Il est parti en Zambie pour créer son entreprise là-bas. Et en Zambie, là-bas, on l'a bien accueilli et on l'a donné la terre. Et le gouvernement zambien l'a même donné encore l'argent. Comme ils ont senti que le monsieur a des bonnes idées, donner l'emploi au peuple zambien. Bon, voilà. Le monsieur est en train de produire les œufs là-bas. C'est nous, maintenant, les Congolais qui commandent.
Voilà. Merci. Merci Jules Kazadi. On a compris ce monsieur hein, qui est venu pour investir à Lubumbashi. Hein, tu as dit qu'il a été découragé par le gouvernement. Il est parti investir ailleurs. Nos invités vont commenter par rapport à cela. Merci Jules Kazadi d'avoir appelé de Lubumbashi. Malonga, vous êtes à Bandundu-Vide. Bonjour Malonga.
Oui, bonjour Marcel. Bonjour à nos invités là.
On s'écoute.
Ok, ça va, merci. Selon moi, en tout cas Marcel, je vois que l'entrepreneuriat, c'est l'affaire de tout le monde. Mais ce que moi j'ai constaté dans l'entrepreneuriat, c'est manque d'accompagnement. Vous voyez ici, surtout ici où nous sommes près des fermes, nous sommes très vraiment des paysans qui veulent se développer. Mais il lui manque l'encadrement et l'accompagnement. C'est ce que mon confrère vient de soulever là-bas. Au lieu d'être encouragés, ils sont là sous une pression étatique. Ils ont beaucoup à payer, beaucoup à s'expliquer. Or, il y a d'autres personnes qui veulent s'entreprendre, mais ils n'ont pas beaucoup d'informations. avant de lui demander n'importe quel document, n'importe quelle chose, il faut d'abord le sensibiliser, il faut le voir, il faut l'initier. Hein, à la même, voilà, vous verrez que cette personne n'aura pas de difficulté de payer même les taxes, même les impôts, même quoi. Mais ce qui nous manque ici, en tout cas, Marcel, je veux vous dire que moi j'ai ma petite entreprise ici, Matraco, ma longue travail au Congo. J'ai commencé petit à petit, mais aujourd'hui peut-être j'ai une ou deux personnes que j'encadre, j'essaie, que l'État n'a pas mesure de servir. Mais si je vous narre comment est-ce que plusieurs bureaux de la ville ici m'assistent, en tout cas, vous n'allez pas comprendre. Tout selon moi, je demande à nos invités, bon, les invités sont aussi indépendants, ils peuvent dire, mais ils n'ont pas la décision. Je demande à eux que de nous donner la procédure de vivre par rapport à notre juridiction, hein, d'encadrement. Est-ce que nous pouvons décider de laisser comme ça? Ou bien nous pouvons s'opposer chaque fois si il nous arrive qu'il nous demande, ou bien quoi, la procédure, s'il vous plaît? C'est ce que je demande là, en tout cas, Marcel. Merci à notre émission.
Merci, Malunga, depuis Bandundouville, en Bougimaï. David est en ligne. Bonjour, David.
Bonjour, Marcel. Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
Ouais, Marcel. Moi, je demanderai un peu aux invités.
Oui.
C'est un sujet là qui me porte très très bien là. Parce que je suis encore aux humanités, je t'ai dit.
Oui.
Mais je rêve déjà de devenir entrepreneur. Malheureusement que je n'ai pas appris l'entrepreneuriat. Je fais les sciences administratives. Maintenant, bon, dans notre option, il n'y a pas les cours d'entrepreneuriat. Au moins, il y a la gestion d'entreprise, le management, tout ça. Maintenant, moi, je demanderais, c'est quoi d'abord entreprendre? C'est quoi entreprendre?
Oui.
Parce qu'il faut d'abord comprendre ces mots-là avant d'aller à autre chose. Maintenant, après, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut commencer l'entrepreneuriat? Comment est-ce qu'on peut commencer une activité entrepreneuriale? Parce que ce n'est pas du tout très facile. Parce que c'est important pour moi un peu. Maintenant, d'où peut provenir les ressources? Peut-être qu'il y a d'autres familles qui n'ont pas de moyens. Peut-être qu'il y a personne qui souffre malheureusement, mais il veut entreprendre. D'où peut provenir ces ressources? Il n'y a pas beaucoup de biens qu'il peut. Bon, parfois il peut prendre des crédits à la banque, mais il n'a pas de biens. Qui peut être en contrepartie avec sa valeur qu'il veut avoir comme crédit, son emprunt. Maintenant, d'où peut provenir ces ressources?
Merci.
Et enfin,
oui, allez-y. Voilà. Oui. Enfin, allez-y, enfin.
Ouais.
Oui, enfin, vous avez une autre préoccupation parce que vous avez dit enfin. Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez encore dire, David?
Ouais, je vais dire un peu aux invités et à madame, surtout mademoiselle, parce que je l'écoute, elle parle un peu bien, qu'elle me dise comment est-ce qu'on peut devenir entrepreneur. C'est le processus, la procédure à suivre. Comment on peut devenir ça?
Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas. C'est un sujet important pour moi.
Merci, là. Merci David d'avoir appelé de Mbujimaï, puisqu'il a parlé, de madame. Je me tourne vers vous, hein, madame Véronica. C'est quoi entreprendre? Comment il faut commencer, hein, lorsque vraiment on veut se lancer dans une affaire, on n'a pas de moyens?
Ok, en termes simples, entreprendre, c'est comme le mot français le dit, c'est commencer. C'est se lancer, c'est amorcer. C'est-à-dire, David, si tu veux devenir entrepreneur, regarde dans quel domaine tu peux travailler et créer un revenu. Créer un revenu ne veut pas dire faire des millions automatiquement. Souvent, c'est ça le défi. C'est que plusieurs personnes pensent que être entrepreneur, c'est commencer à faire de l'argent, devenir riche automatiquement. Non. Même la maman qui vend des beignets dans la rue est entrepreneur. Elle commence, c'est à elle de savoir comment bien canaliser et gérer son flux pour pouvoir garder un montant qu'elle va continuer à réinvestir et développer son entreprise au fur et à mesure. David a dit qu'il n'a pas d'exemple. On ne lui enseigne pas à l'école l'entrepreneuriat. C'est vrai, il n'y a pas vraiment des facultés d'entrepreneuriat. C'est quelque chose que l'on apprend. Et c'est un souci que tout le monde a aujourd'hui. Quand on parle de l'emploi, les jeunes gens sortent de l'université s'attendant, comme l'a dit Louis-Michel, d'être dans un bureau climatisé automatiquement. C'est costume-cravate. Mais ce que nous apprenons à l'université, malheureusement, notre système francophone nous a un peu gardé dans une boîte. C'est-à-dire que ce que nous apprenons n'est pas forcément pour avoir un boulot où on est devant un papier ou un ordinateur. C'est prendre ses atouts, ses informations et les mettre en pratique pour créer un revenu. Et le revenu peut se créer tant dans un bureau que dans un champ. Mais plusieurs jeunes ne veulent pas aller dans le champ, ne veulent pas aller faire un travail manuel qui peut leur apporter plus d'argent que d'être dans un bureau. Exemple, il y a plusieurs personnes qui travaillent chez la banque. Et, oui. Et tu trouves beaucoup de gens qui sont peut-être caissiers dans une banque, qui ont un poste, qui mettent un costume et une cravate, mais qui gagnent $300 le mois, après avoir travaillé plus de 40 heures la semaine. Pendant qu'une tresseuse peut tresser une tête à $60. Et elle en fait deux par jour, ça lui fait $120. Donc en une semaine, elle gagne de loin plus que le caissier à la banque qui s'habille très bien, qui est en costume cravate. Mais ça, on n'y pense pas. On est plus dans l'image que dans le concret. Donc David, si tu veux entreprendre, ce que tu dois faire, c'est découvrir ce que tu peux faire déjà là, même étant étudiant. Est-ce que tu peux vendre des unités? Est-ce que tu peux utiliser ton ordinateur pour saisir des documents si tu en as un? Avant que la banque ne te donne un prêt, qu'est-ce que tu as comme atout autour de toi en famille? Et même en famille, quand il y a un deuil, on trouve toujours l'argent pour enterrer.
Mais madame Véronica, excusez-moi de vous interrompre à ce niveau, vous avez parlé de d'un prêt, c'est souvent aussi ça le problème, David aussi l'a évoqué, souvent c'est dit on n'a pas de moyens. Et comment commencer?
Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Quand en famille il y a un deuil, est-ce qu'on va prendre un prêt à la banque? Quand il y a un mariage, est-ce qu'on prend un prêt à la banque? Mais on trouve l'argent pour faire des belles fêtes. Alors de la même manière, pour entreprendre, on peut s'organiser en famille, se cotiser et commencer une affaire. Nos frères de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ils font ça. Il y a Malonga, c'est ça, Malonga du Bandundu, oui, qui avait parlé de la difficulté par rapport aux éleveurs des entreprises. Ils s'organisent en coopérative, oui, depuis des générations, des siècles avant même que les banques n'arrivent là. Les banques les ont trouvés organisés au Sénégal, partout où ils ont même pas d'eau. Mais ils sont capables de produire et d'exporter de la viande au Tchad. Mais chez nous, on a des cours d'eau, on a tout ça. Souvent, la difficulté, c'est dans l'humain avant que ce ne soit les institutions financières. Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'individus, on peut se faire confiance? Aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a une phrase que l'on dit entre nous, c'est « Trust is the new currency », c'est-à-dire « La confiance est la nouvelle monnaie ». Si nous nous faisons confiance, ça veut dire qu'on peut travailler ensemble. Tu peux me donner ton argent, me faire confiance que je vais aller le fructifier et te donner ton pourcentage. Avant qu'on ne demande aux institutions financières et au gouvernement, entre nous Congolais, pouvons-nous nous faire confiance avec le peu que nous avons, le faire fructifier en coopérative pour nous développer? Ça, ce sont des solutions.
Alors, j'ai beaucoup apprécié le bel exemple à donner à David. Il est étudiant, il n'a pas encore de moyens, mais il peut commencer, vous l'avez dit, avant par exemple les unités. Hein.
Voilà.
Ça, c'est, il ne faut pas attendre d'avoir de gros moyens. D'abord, c'est bon. Alors, je me tourne vers Louis-Michel Mwando. Vous avez suivi, vous êtes entrepreneur. Oui. Il y a des auditeurs qui s'y sont plaints. Est-ce que vous pensez également que le gouvernement ne facilite pas les choses, hein? Si, il faut dire, parce que vous êtes par exemple entrepreneur, quelle est votre propre expérience par rapport à ça?
Oui, Marcel. En fait, je pense que notre frère Malonga a évoqué cette question-là. Et c'est une question importante. Hein. Mais j'aimerais, comme l'a dit ma collègue Véronica, remettre un peu les choses dans le contexte global.
Oui.
Il faut déjà savoir que l'entrepreneuriat, de manière générale, n'est pas facile, n'est pas chose facile. Et je rejoins un peu l'avis de Véronica sur le premier volet en disant que, avant de regarder vers le gouvernement, regardons un peu comment ou de quelle manière nous pouvons nous organiser. Aujourd'hui, dans notre expérience, et c'est pour ça que d'ailleurs nous appelons collègues, hein, nous sommes plusieurs entrepreneurs, nous nous sommes mis ensemble pour voir un peu dans quelle mesure nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Donc nous l'avons fait au travers une ASBL qui s'appelle Réseau Babel International, au sein de laquelle nous travaillons en fait en synergie pour pouvoir nous épauler les uns les autres et voir dans quelle mesure nous pouvons avoir des échanges de services et dans quelle mesure nous pouvons nous soutenir aussi financièrement. Mais aussi, derrière tout ça, nous faisons cette association pour voir dans quelle mesure nous pouvons faire du lobbying auprès du gouvernement, auprès des institutions, pour pouvoir faire valoir justement les différentes difficultés qu'éprouvent les différents entrepreneurs. C'est une réalité. Nous ne pouvons pas nous en dédire. C'est une réalité, c'est vrai. Donc il y a pas mal de difficultés et pas mal de choses que le gouvernement doit faire. Et donc pour nous, à ce niveau-là, c'est la démarche, c'est plus que les entrepreneurs puissent prendre des cahiers de charges, voir un peu quelles sont les différentes difficultés et les faire valoir auprès des autorités. Et là, je rejoins vraiment M. Malonga pour faire un appel à nos autorités pour dire que c'est vrai. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment aussi un facteur de développement important. Donc il est important que le gouvernement mette en place des mécanismes de soutien concrets, et essentiellement des soutiens d'expertise, mais aussi des soutiens financiers pour pouvoir accompagner en fait les différents entrepreneurs. Ce sont des réalités, et même je rejoins Monsieur Malonga qui parle aussi des facilités fiscales, parce qu'aujourd'hui il faudrait qu'on trouve des mesures qui permettent à ce que les entrepreneurs ne se sentent pas asphyxiés dès qu'ils ont lancé leur activité, et tout de suite vous vous retrouvez avec le fisc, ainsi de suite. Ce sont des réalités, et je pense que nous rejoignons Monsieur Malonga qui a évoqué ce point pour dire qu'il y a des efforts à fournir, mais de l'autre côté, les entrepreneurs eux-mêmes aussi doivent pouvoir s'organiser pour faire valoir un peu leur secteur.
Lui, Michel, également un aspect très important, et c'est aussi important d'en parler, il y a des gens qui sont déjà dans les affaires. Est-ce qu'il y a moyen de se créer des opportunités d'affaires?
Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Comme je l'ai dit, en fait, ici, de plus en plus, vous allez remarquer qu'il y a pas mal de structures et d'organisations qui se mettent en place pour pouvoir justement générer ou créer des opportunités d'affaires locales entre les différents entrepreneurs, mais aussi entre les différents secteurs. Notre cas d'exemple, par exemple, nous avons une conférence qui sera organisée le samedi 14 avril, au travers de laquelle nous voulons justement...
Ici à Kinshasa.
Nous voulons justement qu'il y ait des opportunités d'affaires pour les différents participants qui viendront à cette conférence qui s'appelle Business Motivation, avec le thème Doing Business in DRC, the Know-How, c'est-à-dire faire les affaires au Congo, le savoir-faire. Et donc, nous voulons motiver les différentes personnes qui souhaitent justement savoir mais dans quoi je peux me lancer, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité d'affaires, j'ai une expertise, je voudrais la faire valoir, comment je fais. Et donc nous créons des cadres comme ça, d'échanges dans lesquels les entrepreneurs, les professionnels, les étudiants qui ont fini peuvent venir échanger et savoir effectivement dans quelles pistes ils peuvent s'orienter. Et donc ce sont des pistes de solutions qui permettent à ce qu'on puisse créer des opportunités d'affaires pour les différents entrepreneurs.
Vous avez dit c'est l'activité Business Motivation, c'est ça? Et ça va se passer le samedi?
Le samedi 14, ici à Kinshasa, à l'hôtel Léon, de 10h à 12h30. Donc c'est une activité qui va nous permettre de pouvoir échanger justement sur les opportunités d'affaires, comme vous avez dit, et de pouvoir sensibiliser les entrepreneurs à interagir entre eux. Nous mettons aussi un accent particulier par rapport à cette activité, c'est que nous voulons attirer aussi les entrepreneurs anglophones qui se sentent parfois exclus par rapport aux affaires locales, parce que nous sommes dans un pays francophone.
Mais c'était ça aussi ma curiosité, oui. Parce que là, c'est Business Motivation, Doing Business in DRC. Et Madame Véronica, pourquoi seulement en anglais? Nous sommes dans un pays francophone.
Pas seulement en anglais, mais en anglais, parce que l'anglais, c'est la langue des affaires. Si on veut se développer dans les affaires, on n'a pas de choix que de parler anglais. Parce que déjà, en tant que RDC, quand on regarde nos pays voisins, ils sont majoritairement anglophones. Des 9 que nous avons, en majorité, ils sont anglophones. Donc déjà, c'est quelqu'un qui veut faire avec la Zambie, comme on nous l'a dit tout à l'heure. Le business, c'est déjà en anglais. Puis après, on fait Dubaï, on fait la Chine, on fait l'Afrique du Sud. C'est de l'anglais qu'il nous faut. Donc nous, on veut vraiment booster les entrepreneurs afin qu'ils aient tous les atouts. Pas simplement l'information en termes d'affaires, en termes pratiques, mais aussi en termes de la langue. Et savoir interagir avec ces gens-là, soit autochtones ou étrangers, travaillant sur le marché local, qui se sont développés, avec qui ils peuvent créer des synergies pour pouvoir aller un peu plus loin dans leurs affaires.
De faire comprendre à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat que l'anglais, c'est vraiment un must. Il faut vraiment apprendre l'anglais.
C'est une nécessité.
Voilà, merci. On revient à vous. Le temps d'accorder la parole à des auditeurs, d'autres auditeurs qui nous appellent de Lubumbashi et de Kinshasa. On y va avec Tony qui est à Lubumbashi. Tony, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Tony, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour. bonjour monsieur, je vous écoute, je salue les invités sur le plateau.
On vous écoute à notre tour. Votre question, Anthony.
Bon, ma question est celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nos invités qui sont sur le plateau, il n'y a pas moyen de sensibiliser le gouvernement? Puisque avant de sensibiliser la population, il faut que le gouvernement aussi soit au courant de ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, moi je peux te dire, moi je suis un jeune qui a fini mes études en sciences commerciales et administratives. Mais dès que j'ai fini, je n'ai pas eu le boulot. Ça fait déjà 5 ans, je ne travaille pas. Alors, je me suis mis dans ma tête une petite idée de créer, par exemple, un emploi. Alors, j'ai commencé à rouler la moto. En roulant la moto, j'ai trouvé, ne fût-ce que quelques riens. J'ai créé mon activité de la vente des unités ici à Lubumbashi. Mais je vous dis, monsieur, il y a même 5 services de l'État qui sont venus ici me présenter leurs documents que je dois acheter. Au moment où mon capital était de 200 000 francs. Alors, ils sont venus avec des documents, par exemple, de 500 000 francs pour que j'achète. Vous voyez que c'est une façon de me décourager au lieu de m'encourager d'aller à l'avant. Vous voyez. Alors, il n'y a pas moyen que les invités puissent d'abord sensibiliser aussi le gouvernement, afin que le gouvernement puisse promouvoir le développement des idées des plus jeunes qui viennent de l'école. C'est ça ma préoccupation.
Merci, Tony. Depuis Lubumbashi, on revient à Kinshasa. On accorde la parole à Gaston qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Gaston.
Bonjour, Marcel.
On vous écoute.
Oui, moi, je voulais poser la question à nos invités. Parce que depuis qu'ils ont commencé, personne n'a parlé de ce que moi j'entends de l'entrepreneuriat. En fait, dans ce monde-là, oui. La plupart des gens qui sont connus sont des Américains, comme ils ont dit, les Henry Ford, les Napoléon Hill, les André Carnegie. Mais ils ont plus parlé du parti mind, de la partie mind, ça veut dire l'esprit, la pensée. On peut entreprendre quelque chose, mais quand spirituellement, on n'a pas la foi, on n'a pas la réalisation. Sur la partie d'abord conception, sur la partie idée, mais toutes les techniques qu'ils proposent là ne réussiront pas. Je pense que le problème pour réussir dans le management, dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'esprit. Parce que quand vous parlez de tous ces auteurs-là, ils parlent plus de l'esprit. Quand on veut faire quelque chose, on le voit déjà, on la voit déjà se réaliser spirituellement. Mais il se focalise plus pourquoi sur la partie méthode, technique, méthodologie, alors que...
Donc vous voulez dire, il faut avoir la foi, c'est-à-dire que...
La pensée, oui. Quand déjà on conçoit quelque chose, du point de vue de pensée...
Donc vous voulez dire, il faut y croire, c'est ça, non?
Il faut y croire profondément, et en fait, quand déjà on y croit, la réalisation va se faire comme sur un tapis.
Merci Gaston d'avoir appelé de Kinshasa. On reste toujours ici à Kinshasa pour accorder la parole à Gaylor. Bonjour Gaylor.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux invités.
On s'écoute, oui, Gaylor, oui.
J'ai quelques questions à poser. C'est comme Madame Véronique a parlé qu'elle fait le business plan, tout ça. Elle fait le business plan pour les gens qui ont les idées, mais pas pour les gens qui ont déjà fait quelque chose. Je vous donne mon exemple. C'est oui. Comme l'auditeur aussi de Lubumbashi vient, mon intervenant, avant deux personnes qui viennent parler. Je représente une assurance allemande d'ici en RDC. La maison a son siège social en Allemagne, Berlin. Mais j'ai commencé depuis 2013. Il faut voir combien de services de l'État viennent presque chaque semaine. Imaginez-vous, il y a aussi le service de la criminologie économique qui vient toujours dans une agence de voyage. Ce n'est pas leur compétence, mais ils arrivent toujours ici. Je voudrais aussi ajouter que Madame Véronique et notre frère, s'ils peuvent travailler en collaboration avec le gouvernement pour que le gouvernement continue à aider le PME. Je pense que le gouvernement n'aide en rien le PME. Je voudrais aussi avoir leur contact pour essayer de les voir en personne si ça sera possible. C'était un peu ça ma contribution.
Merci Gaylor d'avoir appelé de Kinshasa. Vous avez suivi Louis Michel, on n'arrête pas d'insister par rapport à tout ce qu'il y a comme taxes à payer. Vous avez même apprécié beaucoup l'idée de Tony, hein, qui a commencé avec, d'une moto, hein, et même malheureusement le recette réalisé par rapport à tout ce qu'il faut payer, ça, en tout cas pour lui c'est un casse-tête. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire?
En fait, effectivement, nous rejoignons ce que notre frère Tony a dit. Hein, il faut sensibiliser le gouvernement, et je crois que avec déjà les différentes questions que nous avons ici sur ce plateau, ce n'est pas nous qui avons évoqué cela, ce sont les auditeurs eux-mêmes qui l'ont dit à plusieurs reprises qu'il faut que le gouvernement fasse des efforts pour accompagner en fait les entrepreneurs locaux, les PME. Parce qu'effectivement, on se retrouve très vite asphyxié par les différentes taxes, ainsi de suite. Donc, c'est une réalité. Et nous voulons aussi porter la même voix avec nos frères qui ont soulevé ce point-là pour dire qu'effectivement, le gouvernement doit faire réellement des efforts pour que les entrepreneurs puissent se sentir allégés par rapport justement aux différentes taxes éventuelles qu'il y a dans les différents secteurs. Maintenant, je pense que... c'est un environnement. On doit regarder les choses avec les différentes difficultés. On est tout à fait d'accord avec cela. Mais n'empêche, quand nous regardons dans cet environnement, malgré tout, les gens continuent quand même à s'organiser, à faire des choses. Et c'est ça que nous sommes venus faire sur ce plateau, c'est de dire que peu importe l'environnement dans lequel nous sommes, il ne faut pas que ça soit un facteur de découragement pour se lancer. Donc effectivement, il faut se lancer, il faut essayer de tracer son chemin, mais de l'autre côté, il faut continuer aussi éventuellement à faire du lobbying au travers, justement, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, au travers des corporations, au travers des associations, il faut continuer à faire du lobbying auprès des autorités pour que chaque secteur puisse se retrouver avec des mesures appropriées pour que les jeunes qui se lancent puissent pas se retrouver asphyxiés dès les premières années de leurs activités.
Ça c'est très important. Madame Véronica, vous avez suivi, il y a Gaston qui a dit c'est vrai ce que vous faites là, c'est-à-dire d'essayer d'orienter les gens qui viennent vous voir en consultant, c'est très bien. Mais pour lui, il y a aussi l'esprit, c'est-à-dire il faut également y croire. Il veut savoir si vous insistez là-dessus.
Mais effectivement, c'est ce que nous demandons à tous nos participants, à tous ceux qui viennent vers nous. On leur dit, il faut avoir l'idée. Ce qui se conçoit bien, c'est s'exprime bien et s'élabore bien. Donc nous sommes là pour aider les gens, parfois à bien encadrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur business plan. C'est-à-dire, j'ai une idée, elle est vague, j'aimerais faire ceci ou faire cela, mais je ne sais pas comment faire asseoir les choses. Et on les aide justement à bien avoir une idée claire dans leur esprit, à le développer et à développer leurs idées, même au travers de Business Motivation. Ça, c'est vraiment ce que nous faisons. D'ailleurs, notre première édition, c'est sur ça que nous avons parlé, de comment développer l'idée. Nous avions eu cette première édition en décembre, début décembre 2017. On a expliqué aux jeunes gens et à tous les participants comment ils pouvaient développer. Et il y a aussi, je pense, Guélor, si je ne m'abuse, qui a parlé d'aider aussi les gens qui sont déjà dans le business.
Dans le business, oui.
C'est pas simplement les débutants, même quelqu'un qui est déjà dans les affaires, qui veut développer son affaire sur un autre axe, on le fait aussi. Mais tout le monde n'a pas toujours cette facilité de création ou de développement d'idées. Guélor, je pense que lui, il est fort dans ça. Je pense que c'était Gaston qui a parlé de développement d'idées. Oui. Peut-être qu'il est fort en ça, mais c'est pas le fort de tout le monde. C'est pour ça que nous sommes consultants, sinon on n'aurait pas ce travail. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être guidés, et nous sommes là pour les aider et à mieux définir leurs rêves. Et je pense qu'ils ont parlé d'Américains. Je pense pas que j'ai mentionné particulièrement des Américains qui ont réussi. Mais en Afrique, nous avons Dangote qui est Nigérian, qui a réussi au Nigeria avec la population nigériane. Il y a Tony Olumelo et il y en a tant qui ont réussi ici en Afrique avec la population africaine, avec nos ressources africaines. Donc en RDC, je crois vraiment que cela est possible aussi.
Est-ce que réussir sous-entend aussi à beaucoup de sacrifices?
Bien sûr. Sans sacrifice, on ne peut pas réussir. Même dans un emploi, en tant qu'employeur quelque part, si vous voulez réussir et avoir vraiment une avancée dans une carrière, on se sacrifie, on travaille jusque tard. Parfois, on investit son propre argent. Donc toute réussite requiert un sacrifice.
On va vous retrouver le temps d'aller à Bounia. Il y a un auditeur en ligne qui nous appelle de Bounia, Esdras Kirou. Esdras, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour aux invités.
Bonjour.
On vous écoute, Esdras.
Oui, j'avais deux préoccupations à poser aux invités.
Oui.
La première préoccupation est celle-ci. Parce qu'on peut commencer des activités dans les formels, ou bien on fait ça formellement. Alors j'aimerais demander aux invités de nous proposer par quel moyen commencer par les formels ou formaliser directement les affaires.
Merci.
J'aimerais qu'ils nous disent comment, alors, quel service on peut s'adresser pour formaliser ces affaires. Parce qu'on peut tout faire voler dans les formels alors qu'il y a des marchés qui te demandent d'être formel.
Voilà. On a compris, Esdras. Merci d'avoir appelé de Bounia. Madame Véronica.
C'est mieux d'être formel. C'est vrai que souvent on commence dans l'informel le temps qu'on se développe, mais c'est toujours bien d'être formel. Et parlant d'être formel, je pense que d'autres auditeurs ont mentionné ça. Il y a le gouvernement qui vient dès que tu te lances dans une petite affaire. Moi, j'aimerais dire à tout entrepreneur, connais tes droits et connais tes responsabilités. Bien souvent, nous sommes arnaqués parce que la corruption est là. Les arnaqueurs, ils existent partout au monde, pas simplement en RDC. Mais le problème, c'est que souvent, on se fait prendre aussi parce qu'on ne connaît pas ses droits et on ne connaît pas la loi. Prenez le temps d'aller à l'ANAPI, prendre les informations pour savoir quels sont les droits. Passer par la DGI, par la DGRAD, au moins connaître ses droits. Avant que qui que ce soit ne vienne vous demander de payer 500 000 francs pour un document qui n'est peut-être pas valable, au moins vous avez l'information et vous pouvez lui dire non, j'ai ce document qui me dit que à mon statut, à mon niveau, je ne dois pas payer telle ou telle autre taxe. Au moins vous savez vous défendre. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, c'est toujours bien de se formaliser parce que l'un des grands problèmes des entrepreneurs qui se plaignent de ne pas avoir recevoir des prêts au niveau des institutions financières, c'est parce que justement leurs entreprises ne sont pas viables, formelles ou organisées. C'est-à-dire, on évolue comme ça et du jour au lendemain, on vient sans état financier auprès d'un banquier demander un prêt. Et c'est pas possible. Plutôt on s'organise et on se formalise, c'est vrai qu'il y a la contrainte des taxes. Mais si on fait déjà sa part du travail, en connaissant les lois, en apprenant comment faire les choses, en prenant même son cousin qui est avocat pour nous aider en tant que juriste, on évolue mieux. On s'organise, on a son autre cousin ou ami qui est comptable, parce qu'on a toujours quelqu'un qui est là. Et on s'entraide comme ça en synergie pour avoir en place tout ce qu'il nous faut.
Michel, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je voudrais ajouter ceci pour M. Edras. En fait, la question de savoir si on doit se lancer de manière formelle ou informelle, c'est une question importante. Mais je crois qu'il faut partir en amont en se disant ce que M. Gaston avait évoqué tout à l'heure. Quelle est l'idée qu'on a? Qu'est-ce qu'on apporte sur le marché? En fait, des fois, les gens veulent se mettre des barrières avec des questions qui sont importantes, essentielles, mais avant même de pouvoir examiner, l'idée en soi, l'idée d'affaires. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on intervient avec l'organisation Business Motivation. C'est pour déjà, en amont, travailler avec les différents jeunes qui veulent se lancer en se disant, quelle est l'idée? Est-ce qu'il y a un marché pour absorber le produit ou le service avant de commencer à aller dans des barrières assez contraignantes en se disant, on se lance de manière formelle ou informelle? Donc, ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, pour ce type de questions, nous avons un site internet qui s'appelle Ici Ailleurs, iciaiursmagazine.com. Ici Ailleurs Magazine, en un seul mot.com, qui est un site dédié aux entrepreneurs où nous posons les différentes questions par rapport au marché local et nous essayons d'apporter des réponses. Et ce sont des questions assez intéressantes qui reviennent souvent sur lesquelles les différents entrepreneurs peuvent trouver des pistes de solutions par rapport à leur situation. Et au travers même ce site, ils peuvent nous contacter pour qu'on puisse les accompagner en termes de conseils.
Donc, ils ont également demandé les numéros de contact. C'est seulement ce site-là ou bien vous avez d'autres numéros de contact?
Alors, est-ce qu'on peut le dire ici?
Oui, allez-y. Il n'y
a pas de problème. Donc, 081-830-94-98. Donc, on peut nous joindre à ce numéro-là directement et nous serons très ravis de pouvoir interagir. Mais nous appelons aussi pour les gens qui sont à Kinshasa. Donc, ils peuvent nous rejoindre pour l'activité du 14 avril. C'est à l'hôtel Lyon.
Ce sera samedi.
Ils auront l'occasion de nous rencontrer, de pouvoir échanger aussi avec nous. Ils peuvent juste nous passer un coup de fil pour confirmer leur participation. Et donc, ça sera un bon moment, une bonne occasion pour pouvoir échanger aussi sur les différents.
Et c'est préférable de savoir parler un peu l'anglais.
Oui, mais il y aura de l'interprétariat. Des interprétariats, hein. D'accord.
Madame Véronica sera là pour traduire.
Ne vous inquiétez pas.
Voilà, si vous êtes intéressé par rapport à cette activité Business Motivation qui va se dérouler à Léon Hôtel ce samedi, de 10h à 12h30, c'est ça. Donc, vous pouvez appeler au 081-830-94-98. Oui. Voilà, on va s'arrêter par là. Il nous reste plus qu'à dire merci à Madame Véronica Kaimé, consultant en business et interprétariat, mais aussi à lui, Michel Mwando, entrepreneur et initiateur du Salon de l'Emploi RDC. SC Job Days et directeur général de DKV Service. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup,
Merci
Marcel.
Merci à vous.